position tranchée, les présidents Biden et Poutine marquent chacun à sa manière le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, alors que Zelensky reste défiant. Après une visite surprise à Kiev où il a renouvelé le soutien des Occidentaux à l'Ukraine, le locataire de la Maison Blanche a salué en Pologne l'unité de l'OTAN, qui a jusqu'ici joué un rôle de premier plan dans l'assistance de l'Alliance militaire occidentale au gouvernement de Volodymyr Zelensky. Ce dernier est toujours à la tête de ce pays, 12 mois après l'invasion que Moscou qualifiait d'opération militaire spéciale, qui était censée durer quelques semaines, voire quelques jours. Pour le président Biden, l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, mais le patron du Kremlin, Vladimir Poutine, accuse les Occidentaux de viser la destruction de son pays et décide de suspendre la participation de Moscou à l'accord sur le désarmement nucléaire. Que retenir de cette année de guerre en Ukraine? Ce conflit a-t-il renforcé les alliances sécuritaires déjà existantes et ouvre-t-il la voie à d'autres? Quelle voie de sortie s'offre aux protagonistes? Réponse avec nos invités. En un an de guerre, la Russie a occupé puis perdu de vastes étendues du territoire ukrainien, mais elle ne lâche pas prise. Les familles restées dans les zones en guerre racontent que les pertes qu'elles ont déjà subies sont énormes. Reportage de Heather Murdock depuis la région ukrainienne Oblast de Kherson, et c'est un récit de Claire Morin-Jubourg.
Lorsqu'il était occupé par la Russie l'année dernière, ce village, Pravdin, dans l'oblast de Kherson, a été encerclé par l'armée ukrainienne et engagé dans de violents combats.
La ligne de front est passée juste ici. Les Russes se tenaient ici, partout dans la rue.
Une grande partie de la zone a été détruite ou jalonnée de mines, mais l'Ukraine contrôle maintenant la province. Des mannequins mis en place par les troupes russes pour effrayer les forces ukrainiennes ne montent plus la garde contre personne. Un rappel que sur le terrain, même la guerre de haute technologie consiste principalement en de jeunes hommes qui se battent pour survivre. Chaque camp a attaqué l'aéroport plusieurs fois. Tous deux préféreraient le voir en ruine plutôt qu'être utile à l'ennemi. À l'intérieur de cette capitale provinciale, des panneaux de signalisation déclarent que Kherson est une ville héroïque et ajoutent « Famille, vous êtes libre ». Les bombes tombent encore jour et nuit, mais la majeure partie de la ville est toujours debout. Les personnes restées sur place disent que la grande majorité des habitants ont fui il y a longtemps. Certains se sont échappés lorsque les Russes ont pris le relais. D'autres sont partis avec les Russes lorsque l'Ukraine a repris la ville. Les forces russes ne sont qu'à quelques kilomètres de là et les personnes restantes disent qu'elles n'ont nulle part où aller ou qu'elles ont été déplacées depuis des endroits encore plus dangereux.
Nous sommes ici à Kherson depuis 6 mois et nous ne sommes allés chez nous qu'une seule fois. Maintenant, il n'y a plus de route parce que le pont a été détruit.
Olena Ignatenko est également originaire de Pravdin, où la plupart des maisons sont vides ou détruites.
Il y a eu bien pire ici. On nous a tiré dessus à plusieurs reprises. J'ai réparé les fenêtres encore et encore avant que la maison ne soit détruite. Donc, il y a eu des jours bien pires ici. Le pire jour, c'est quand j'ai vu des chars russes entrer dans le village.
Il ne reste plus que des carcasses de chars russes dans le village. Mais Viktor Sazunovitch dit que c'est peu réconfortant, alors que tant de choses ont été perdues. Et après une année complète de guerre ici en Ukraine, les habitants disent que même si cela se termine demain, le niveau de dévastation ici est énorme.
Merci beaucoup Claire. Et maintenant pour nos invités, nous avons à Paris Patrick Chevalereau. Patrick, vous êtes consultant international, spécialiste des questions transatlantiques et de défense européenne. Et ici aux États-Unis, dans l'état de Maryland, précisément à Annapolis, Jean-François Seznec, vous êtes politologue, économiste, également directeur de Lafayette Group. Alors, avant de nous entretenir avec nos deux invités, allons à Kiev pour retrouver Philippe Krauter, notre confrère.